Et tout de suite, un nouveau journal avec Christophe Paget. Bonjour Christophe.
Bonjour Charlie, bonjour à toutes et à tous. À la une de ce journal, l'ultimatum lancé par Donald Trump à l'Iran qui expire ce soir. Si Téhéran ne rouvre pas le détroit d'Ormuz, les États-Unis détruiront les centrales électriques iraniennes. Ce matin, l'Agence internationale de l'énergie affirme que la guerre au Moyen-Orient pourrait provoquer la crise énergétique mondiale la plus grave de ces dernières décennies. En France, les résultats des municipales, la gauche conserve les trois plus grandes villes du pays, Paris, Lyon et Marseille. Pas de grandes villes par contre à l'extrême droite pour le Rassemblement National qui continue de récupérer nombre de petites villes ou de villes moyennes, particulièrement dans le sud du pays. Et puis on a appris ce matin la mort de l'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin. L'initiateur des 35 heures, de la couverture universelle et du Pax, retiré depuis plus de 20 ans de la vie politique, avait 88 ans. La Chine met en garde contre le risque que la situation ne devienne incontrôlable au Moyen-Orient. C'est ce soir, 23h44 temps universel, que l'ultimatum lancé par Donald Trump à l'Iran expire. Si Téhéran ne rouvre pas le détroit d'Ormuz, les États-Unis détruiront les centrales électriques iraniennes. Et ce matin, alors que Pékin appelle à nouveau à un cessez-le-feu immédiat et que Paris réitère son appel à suspendre les frappes contre les sites énergétiques, les pays du Golfe sont à nouveau visés. Deux missiles balistiques ont été tirés sur l'Arabie Saoudite, l'un a été intercepté. L'autre s'est écrasé dans une zone inhabitée. Alerte aussi déclenchée aux Émirats Arabes Unis et à Bahreïn. Dans la nuit, Israël a de son côté annoncé avoir lancé, je cite, une large vague d'attaques contre Téhéran. Selon l'agence de presse Fars, ce matin, les frappes ont touché le nord, le centre, l'est et l'ouest de la capitale. Israël annonce aussi une intensification de ses opérations terrestres au Liban. Hier, l'armée israélienne avait mis sa menace à exécution en détruisant un important pont enjambant le fleuve Litani. À Beyrouth, la correspondance de Paul Ralifet.
Le pont de Kasmiyeh, au nord de la cité antique portuaire de Tyr, a été attaqué à deux reprises dimanche par l'aviation est complètement détruit. Cette infrastructure est un point de franchissement majeur de Litanie, reliant le sud du Liban au reste du pays. La destruction de Kasmiyeh porte à 4 le nombre de ponts détruits sur le Litanie depuis le début de la guerre le 2 mars. L'objectif militaire est d'entraver le mouvement des combattants du Hezbollah et d'empêcher le retour des habitants. 5 divisions israéliennes sont engagées sur le théâtre libanais sur un front de 120 km allant de la Méditerranée au contrefort du Golan. Le principal effort israélien est concentré à l'extrême sud-est du Liban, qui commande l'accès à la plaine orientale de la Beka et permet d'atteindre le Litanie à son point le plus proche de la frontière. Les troupes israéliennes ont enregistré des progrès, mais pas encore décisifs. Elles se heurtent à une forte résistance de la part des combattants du Hezbollah qui manœuvrent en petites unités très mobiles. À ce stade de l'opération terrestre, les combats très violents se déroulent dans une bande frontalière large de 3 à 6 km. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
RFI, il est 13h03 à Antananarivo. Ce matin, Fatih Birol, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, affirme que cette guerre pourrait provoquer la crise énergétique mondiale la plus grave depuis des décennies. Exemple, à Madagascar, où Antananarivo, la capitale, est au point mort, en cause le retard du pétrolier Advantage Passion, bloqué au Moyen-Orient pour cause de guerre. L'office malgache des hydrocarbures promet un retour à la normale grâce à des stocks stratégiques, mais la tension reste importante à Antananarivo, où une chasse au carburant s'est mise en place. Correspondance Aurélie Couman.
17h à Nalakeil, quartier central d'Antananarivo. Sous un soleil qui décline, des centaines de taxis et de motos attendent, moteur éteint, à une station d'essence. Le pays manque cruellement de carburant car le navire qui devait approvisionner Madagascar est bloqué dans le golfe Persique en raison de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Ce contretemps prive ce taxi-moto de son gagne-pain.
On voit beaucoup d'impact pour notre travail parce que il y a beaucoup de clients et nous n'avons pas d'essence pour rejoindre plus loin. C'est plus dur pour nous.
Même épuisement de l'autre côté de la pompe. Le personnel enchaîne les doubles services pour tenter de discipliner des clients à bout de nerfs. Une situation devenue insupportable, dénonce Tokine, pompiste.
J'ai commencé à 5h du matin et je finis à 21h sans même avoir de repos. Il y a de plus en plus de monde et je ne comprends pas vraiment où est le problème.
Madagascar importe 100% de ses besoins en produits pétroliers raffinés. Avec une consommation nationale qui frôle désormais les 1 million de mètres cubes par an, Le moindre blocage sur les routes maritimes grippe l'économie. Aurélie Couman, Antananarive, RFI.
Les municipales en France, le deuxième tour c'était hier. À un an de la présidentielle, la gauche conserve les trois plus grandes villes de France, Paris, Lyon, Marseille. Paris où l'ancienne ministre de la Culture, Rachida Dati, rate la marche face au socialiste Emmanuel Grégoire, qui pourtant n'avait pas saisi la main tendue de LFI. D'ailleurs, dans le reste de la France, lorsqu'elles ont eu lieu, les alliances PS-LFI n'ont été que rarement couronnées de succès. Et ce matin, Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, parle du leader de LFI, Jean-Luc Mélenchon, comme d'un boulet. En tout cas, à Paris, c'est une très lourde défaite pour Rachida Dati. La LR ne recueille que 40% des voix. Raphaël Delvolvé était hier à son QG, où la soirée électorale a tourné court.
Le son et les images sont cruels. Sous les huées de riverains et de militants de gauche venus narguer l'adversaire, Rachida Dati se fait un chemin et prononce un discours expéditif.
Je n'ai pas réussi à convaincre suffisamment que le changement était non seulement possible, mais surtout qu'il était nécessaire.
L'amertume se ressent.
J'ai aussi subi des attaques mensongères, indignes. En dessous de la ceinture, le poison de la division a produit ses effets.
Parmi ses soutiens, la déception est immense.
C'est vraiment une douche froide.
C'est dur. C'est insupportable même.
Et la rancœur partagée, notamment à l'égard de Pierre-Yves Bournazel. Si le centriste a accepté la fusion, il a refusé d'apparaître sur la liste Dati.
Il y a de la colère aussi. Il aurait envoyé un message fort à ses électeurs s'il aurait accepté d'être numéro 2.
Il fallait qu'il dise à ses électeurs de voter à droite, il ne l'a pas fait. Il ne s'est pas positionné.
La division du premier tour, à droite et au centre, n'auront évidemment pas facilité la campagne très tendue jusqu'à hier soir encore dans les rues de Paris.
Gauchiste de merde. Et la gauche, tu sais que Dati est en merde.
Et ce second échec dans la capitale pour Rachida Dati, avec de surcroît un mode de scrutin censé la favoriser, sonne comme un rêve brisé, voire un sérieux coup d'arrêt dans sa carrière politique.
Pour ce qui est du Rassemblement National, il ne décroche pas de grandes villes, échec à Toulon, Nîmes ou Marseille, mais le RN continue de récupérer nombre de petites villes ou de villes moyennes, particulièrement dans le sud du pays. Les écologistes ont conservé la mairie de Lyon face à l'ex-patron de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, qui entend déposer un recours, mais ils ont perdu plusieurs des villes gagnées lors de la vague verte de 2020. Le parti Les Républicains, lui, prend plusieurs villes à la gauche, Clermont-Ferrand, bastion du PS, Tulle, ville de l'ex-président François Hollande, ou encore Besançon, prise aux écologistes. On reste en France et à gauche, puisqu'on a appris ce matin la mort de Lionel Jospin, l'ancien Premier ministre socialiste de 1997 à 2002, avec 88 ans. On se souvient de son échec en 2002 à être qualifié pour le second tour de la présidentielle alors qu'il était Premier ministre, tandis que l'extrême droite, elle, se qualifiait avec Jean-Marie Le Pen. Lionel Jospin s'était alors retiré de la vie politique. 5 ans avant, l'ex-premier secrétaire du PS et ministre de l'Éducation de François Mitterrand était entré à Matignon à la tête d'une majorité dite de gauche plurielle, alliant socialistes, communistes et écologistes, mettant en place la réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires, la couverture maladie universelle et puis le Pax, le précurseur du mariage homosexuel. Ce matin, Emmanuel Macron parle d'un grand destin français porté par un idéal de progrès. Aux États-Unis, deux des principaux réseaux de télévision locale fusionnent. Les autorités de la concurrence viennent de le valider et cela se passe à quelques mois à peine des élections de mi-mandat. Nexstar, le numéro 1 du secteur, rachète son concurrent, Tegna, pour un peu plus de 6 milliards de dollars. La concentration des médias s'accélère. Nathanaël Vitran.
Non seulement le ministère de la Justice et la FCC, le puissant gendarme de la concurrence, ont approuvé le rachat, ils ont pour cela levé l'interdiction qui empêche normalement un seul propriétaire de chaîne de toucher plus de 40% des foyers américains. Avec cette acquisition, Nexstar aura entre les mains 265 chaînes de télévision locales à travers le pays, lui permettant de toucher 80% des foyers aux États-Unis. Le patron de Nexstar, Perry Sook, s'est empressé de remercier Donald Trump d'avoir permis le deal. Il faut dire que le patron n'a pas attendu pour donner des gages de fidélité au président américain. L'an dernier, c'est lui qui avait décidé de suspendre d'antenne le comédien Jimmy Kimmel pour une remarque qui avait déplu à la Maison Blanche. Avec ce rapprochement, la concentration des médias entre les mains de proches de Donald Trump accélère encore. Paramount a récemment racheté la maison mère de HBO et de la chaîne d'information CNN. Leurs rédactions ont de quoi s'inquiéter au vu de la mise au pas et du virage éditorial brutal de CBS racheté par le même groupe l'an dernier.
En Grèce, ouverture du procès de la catastrophe ferroviaire la plus meurtrière du pays, celle de Tampé, une collision frontale entre deux trains il y a 3 ans qui avait fait 57 morts. Avant de se percuter, les deux trains avaient circulé sur la même voie pendant 10 minutes sans déclencher aucun système d'alarme. 36 personnes sont jugées à partir de ce lundi.